This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 89 du podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une belle demi-heure de love et de nostalgie puisque nous allons fêter, comme il se doit, dans la joie et la bonne humeur critique, le record que vient de réaliser l'inépuisable Grey's Anatomy, puisqu'avec son 332e épisode, qui était le 15e de la saison 15, elle est devenue la série médicale de prime time la plus longue de l'histoire, dépassant ainsi le modèle du genre Urgence.
Next one.
That's the last one.
Je suis Jean-Maxime Renaud d'Allociné, fan de Grey's Anatomy depuis les premiers instants. À mes côtés, d'autres adeptes devant l'éternel. Asma El Mardi de Brain Damage. Salut Asma.
Salut.
Marianne Béard de l'Humanité. Salut Marianne.
Salut Jean-Maxime.
Et Stéphanie Guérin du Parisien. Salut Stéphanie.
Salut. Bon, moi je suis pas fan depuis le tout début. Hein. J'ai pris.
Quoi ?
D'accord. On était déjà à la saison 5, je crois, quand j'ai commencé Grey's Anatomy, mais j'ai quand même commencé par la saison 1.
Donc, d'accord, voilà. On note. Tu n'es pas une vraie fan. Cette semaine, donc, pas question de débattre sur la qualité même de Grey's Anatomy. Nous aurions 15 ans de retard. Pas question non plus de la caricaturer. Non, ce n'est pas qu'une série où les médecins couchent ensemble quand ils ne sont pas tués dans d'atroces souffrances, mais plutôt de disséquer son évolution, son exceptionnelle longévité, car on ne parvient pas à tenir autant d'années sur un malentendu.
Each of you comes here today hopeful, wanting in on the game.
You know that old saying, if these walls could talk.
Pick me, choose me, love me.
I have 5 rules, memorize them.
Join us as Grey's Anatomy becomes the longest running primetime medical show on television.
Will you marry me?
Because after 332 episodes,
people love us. That's cause to celebrate.
We still have so much more to say.
Alors Stéphanie, tu as commencé un peu à nous spoiler, mais je vais commencer par vous poser une question presque intime pour poser les bases du débat. Quel est votre rapport à vous avec Grey's Anatomy ? On parle quand même d'une série qui nous accompagne depuis 15 ans. C'est pas rien, c'est assez rare. Est-ce que vous lui vouez un amour inconditionnel ou est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas, voire des ruptures avec elle ? Dites-moi tout. Tu peux continuer sur ta lancée, du coup, Stéphanie ?
En fait, moi, je me suis mise à Grey's Anatomy après la fin d'Urgence, parce que Urgence, c'est une de mes séries vraiment préférées de la vie ultime. Donc, pour moi, Grey's Anatomy, c'était une espèce de pâle copie. J'avais même pas envie de regarder. Et donc, quand Urgence s'est terminée, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc, je me suis mise à Grey's Anatomy. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pareil. Et donc, j'aime Grey's Anatomy pour des raisons bien différentes d'Urgence. Pour moi, c'est plus une série doudou que je retrouve toutes les semaines avec un grand plaisir. Mais je dirais pas que je suis ultra fan de Grey's Anatomy, en fait. Je lui trouve plein de défauts. Mais ça reste une valeur sûre.
Marianne ?
Alors moi, je suis fan de la première heure. Enfin, même, en fait, j'ai un peu de... Enfin, le mot fan me questionne. Parce que je trouve qu'elle a des qualités intrinsèques qui sont bien supérieures à l'engouement que je peux avoir en tant qu'individu. Mon regard critique sur cette série est indépendant du plaisir que je peux y prendre en tant que téléspectatrice. J'ai commencé au premier épisode, je suis à jour, même si j'écris évidemment... pas aussi fréquemment dessus que des nouveautés, mais en tout cas moi le vendredi, parce que j'achète en fait mes épisodes, je ne les télécharge pas, donc le vendredi j'ai un petit message qui apparaît sur mon iPhone en me disant qu'un nouveau épisode est disponible. D'accord. Et je le regarde et en fait je suis assez d'accord avec Stéphanie, elle est très différente d'Urgence. J'adorais Urgence. Ouais. C'est deux séries avec lesquelles j'ai un rapport assez fort, mais pour des raisons différentes.
On reparlera d'Urgence tout à l'heure. Asma, ton rapport à la série ?
Alors, moi, Grey's Anatomy, c'est un peu la série... Pareil, hein, je concorde sur le fait qu'elle n'égale pas Urgence et que Urgence, ça reste une série qui parle d'hôpital et de médecins, mais de manière complètement différente comparée à Grey's Anatomy, qui est plus du côté soap et drama que série médicale. Mais j'ai un rapport assez particulier avec Grey's Anatomy parce que c'est une série qui m'a accompagnée on va dire, ma licence à la fac jusqu'à maintenant. Donc j'ai grandi avec elle, j'ai pris de la maturité avec elle, j'ai eu des hauts et des bas, des moments où je voulais lâcher parce que je trouvais que ça me plaisait plus, d'autres où je retrouvais cette petite étincelle qui avait disparu. Et je trouve que c'est une série en fait qui a grandi. Elle aussi pendant 15 ans, qui a changé, qui a pris d'autres routes, qui essaie de faire autre chose, parfois peut-être bien, parfois peut-être mal, mais qui a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités qu'on ne peut pas renier. C'est pour ça qu'elle dure depuis 15 ans. Ce n'est pas juste parce que c'est une série médicale d'ABC.
Ouais. Alors on va revenir plus en détail tout à l'heure sur ce qui explique cette longévité. Mais si on revient au fondement de la série, donc quand elle a commencé en 2005, à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'elle a tout de suite plu? Parce que c'est devenu un phénomène aux États-Unis en quelques semaines. Et en France aussi, ça a été assez rapide, ce succès sur TF1. Quel a été en fait le coup de génie de sa créatrice, Shonda Rhimes, qui, on le rappelle, à l'époque était quand même une inconnue. On lui devait surtout le film Crossroads avec Britney Spears, qui était quand même
J'avais oublié celui-là.
C'est pas un chef-d'œuvre.
Complètement zappé.
Et le script de Princess Diary.
Effectivement, ouais, c'est vrai. Et c'était ses
elle
deux seules
cucu,
expériences.
Elle était très cucu, la praline, en fait, à l'époque, hein, quand même.
Elle avait développé quelques projets qui n'avaient pas vu le jour, et c'est Grey's Anatomy, son premier projet de série qui a été validé. Alors, qu'est-ce que Grey's Anatomy avait que les autres séries n'avaient pas à son lancement, Marianne?
Alors, pour moi, elle a une filiation évidente qui n'est pas Urgence, mais qui est Ally McBeal. Pour moi, la magie de Grey's Anatomy et la magie de l'écriture de Shonda Rhimes, c'est qu'elle s'inscrit dans... Pour moi, c'est une fantaisie, enfin, en français, donc un fantasme. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Pour moi, la magie de cette série, c'est qu'elle joue avec les fantasmes des téléspectateurs sur la relation amoureuse est quelque chose qui devient un jeu. Et de la même manière que... alors, évidemment, dans Ally McBeal, c'était merveilleux et c'était encore différent, mais il y avait cette espèce de truc plus grand que la vie. Et la saison 1 en particulier, elle est très axée là-dessus. Et je pense que l'intime est observé par le prisme du fantasme. Et en fait, c'est la vie rêvée, les amitiés rêvées, tout y est excessif.
Même dans les catastrophes.
Oui. Même les cas médicaux sont excessifs dans Grey's Anatomy.
Grey, c'est surtout c'est sexy, c'est glamour. Parce que effectivement, ce qu'il y avait pas du tout dans Urgence et donc dans
sauf
le
George.
Domaine. Sauf George, effectivement.
Et Noah Wiley, s'il te plaît, Docteur Carter, attends.
Il n'y
a pas que George dans Urgence, attends.
Ils n'étaient pas glamourisés dans la série, mais il y avait quand même des
voilà,
gens beaux, c'est
vrai. Là, tu arrives dans Grey's Anatomy, tu mets à bout toutes les scènes d'ascenseur et t'en peux plus. Quoi.
Ouais, c'est un parc d'attractions pour filles, en fait, Grey's Anatomy. C'est le Disneyland
aussi,
pour... Oui, mais à la base, c'est quand même une série, en tout cas la première saison, qui était hyper girly.
Oui,
après, ça s'est élargi, mais je veux dire, la cible...
Mais d'ailleurs, enfin, je rajoute un petit truc chiffré comme ça. Aux États-Unis, donc en France, on n'a pas ces chiffres-là, mais aux États-Unis, il y a quand même seulement 28% d'hommes qui la regardent. Donc, ça fait quand même un public très, très féminin, et c'est une des séries au public le plus féminin aux États-Unis, toujours aujourd'hui.
Mais ce qui est cool avec Grey's Anatomy, c'est que oui, les histoires d'amour prennent beaucoup de place, mais ce que je trouvais assez intéressant avec l'écriture de Shonda Rhimes, c'est qu'elle propose un bel équilibre, en fait, entre les échanges entre les personnages, qu'ils soient amoureux ou amicales. Il y a quand même cette espèce d'histoire de on va dire bromance ou sister romance, on va dire ça entre
Meredith
et Christina. Et en même temps, enfin, ils sont en train d'essayer d'apprendre, ils sont encore à l'école, enfin, ils sortent à peine de l'école, mais ils sont dans l'école de la vie, de la médecine en quelque sorte, donc ils sont en train de cette espèce de quête professionnelle, identitaire, amoureuse, et c'est un mélange en fait de beaucoup beaucoup de choses. Et il y avait aussi quelque chose que je trouvais vraiment top dans Grey's Anatomy à l'époque, et je pense que c'est ce qui a contribué à son succès, c'est que elle abordait des sujets quand même parfois très graves ou assez peu vus. Elle avait beaucoup de diversité, chose qu'on ne voyait pas dans les séries télévisées de network à l'époque. On avait quand même une chef des internes qui était petite, noire et est un peu ronde. On avait beaucoup d'Afro-Américains, on avait beaucoup d'Asiatiques. Et cette diversité, je pense que c'est ce qui a permis aussi à Grey's Anatomy d'identifier les spectateurs à beaucoup plus de personnages que par rapport à Urgence ou d'autres séries, en fait. Ouais. Ça a eu un sentiment un peu fédérateur, je pense, devant la télévision.
On va reparler d'Urgence un tout petit peu, quelques instants. Pour rappel, au moment où Grey's Anatomy démarre, Urgence n'est pas encore terminée, c'est la fin de la saison 11. Et selon moi, c'est un peu le début de la fin aussi de la série, même si elle ne s'arrête véritablement que 4 ans plus tard, en 2009. Est-ce que Grey's Anatomy l'a soudainement ringardisé? Ou est-ce que c'est Urgence qui n'a pas su se renouveler, à votre avis? Sachant que oui, je pense qu'autour de la saison 11, on avait très peu de personnages de départ dans Urgence, là où Grey's Anatomy en a encore pas mal.
Ben, dans la saison 11, Urgence, il n'y a plus que Noah Wyle, justement, qui est encore là. Et comme tu dis, Grey's Anatomy, encore aujourd'hui, a 4 de ses personnages d'origine. Et ça, le problème, c'est qu'Urgence, ben, ils n'y peuvent rien. Les acteurs se barrent, quoi. Donc forcément, ça a été un peu plus compliqué. Maintenant, ouais, tout le monde est sévère sur les 4 dernières saisons d'Urgence. Bon, voilà, moi, ça reste ma Madeleine de Proust. J'arriverai jamais à dire du mal d'Urgence. La grande force de Grey's Anatomy, c'est effectivement d'avoir un ensemble choral où certes, l'héroïne, c'est Meredith, mais en fait, pas tant que ça, moi, je trouve.
Elle revient peut-être plus sur le devant de la scène depuis quelques
saisons. Moi, je serais encore plus critique sur Meredith, parce que je me souviens très très bien, parce que c'était la période où j'étais très fangirl sur beaucoup de séries, avant d'en faire ma profession. Meredith était la nana qui tapait sur le système de tout le monde, parce qu'elle pleurait tout le temps, parce que c'était soit par rapport à Shepherd, soit par rapport à sa mère, soit par rapport à sa place en tant qu'interne. Enfin, c'était le personnage le plus inintéressant. À côté de ça, on avait Christina qui était un peu la nana carriériste qui voulait absolument aller au bout en fait de ses idées et de ses envies. On avait Shepherd qui était dans un divorce et qui se recherchait. Enfin, on avait beaucoup de personnages qui avaient des vrais backstories dès le début qui nous permettaient en fait de nous immerger très très vite. Et Urgence a perdu cet aspect backstory, je trouve, avec l'intégration de beaucoup de nouveaux personnages qui étaient très détachés, je trouve, par rapport aux originels. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un peu tous laissé tomber Urgence vers la fin, parce que on n'avait pas ce rapport un peu, comment dire, cathartique avec les personnages d'Urgence.
Oui, Marianne.
Moi, ce que je trouve aussi intéressant avec Grey's Anatomy, alors je les opposerai pas, Je pense que en matière de création, quand les objets artistiques sont intéressants, j'ai pas envie de faire des oppositions. C'est comme comparer Van Gogh et Picasso. Pour moi, c'est deux choses différentes.
C'est juste que, en fait, avant Urgence, il n'y a pas eu beaucoup de séries musicales. Mais la question se. Et Urgence, donc forcément, on les compare. On peut pas faire autrement.
Mais la question est pertinente. Ouais. Mais après, moi, comment je me situe en tant que critique par rapport à un travail, c'est plus par rapport à sa valeur intrinsèque, ce que je trouve très novateur dans Grey's Anatomy. Et en cela, elle a gagné son indépendance par rapport à Ally McBeal. C'est en fait, c'est vraiment une série où les femmes, certes, elles vivent dans une espèce de fantasme amoureux, mais en même temps, elles ont le droit d'être antipathiques. Mm-hmm. Ça, c'est extrêmement moderne.
Oui.
Il n'y a pas une injonction d'être une fille sympa, en fait. Et je pense que c'est une partie du succès de cette série, c'est que, en fait, c'est juste des filles avec leurs humeurs. On ne leur demande pas d'être des super-héroïnes, de l'empathie, de la sympathie. Christina Young, il y a plein. Miranda.
Bien sûr, Bailey.
Voilà, tout.
C'est juste. Sur le même nazi, d'ailleurs.
Ouais, c'est des êtres humains dans leur complexité. Et ça, je trouve ça très, très moderne, en fait.
C'est vrai qu'il faut défendre Meredith. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont tout de suite aimée. Et c'est quand même quelqu'un qui était dépressif. Elle a failli se suicider. Enfin, elle n'a pas failli, elle s'est suicidée. Et c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant Grey's Anatomy, dans une héroïne de série qui est à ce point dark. On parlait des Dark Twisted Sisters avec Christina. Mais ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu avant. Alors effectivement, ça s'est fait avec un peu de difficulté au début. Tout le monde ne les a pas aimés tout de suite, mais on a appris à les aimer. Et maintenant, on a beaucoup de personnages comme ça qu'on aime d'emblée parce qu'on y est habitué.
Mais c'est ça qui est intéressant avec Grey's Anatomy, c'est que ce sont des personnages, en fait, qui évoluent, que tu peux détester au début, aimer à un moment, redétester derrière. C'est des personnages qui ont vraiment, comme tu disais, tellement une grande complexité dans leur écriture, que ce soit à travers leur carrière ou à travers leurs liens amoureux ou à travers leurs liens fraternels avec d'autres internes, ce qui nous permet en fait de proposer quand même une vision de l'humanité et des liens en fait humains qu'on peut avoir dans une société ou dans un cadre ou dans un environnement comme un hôpital, qui est assez je trouve presque parfait dans tout ce qu'il y a de plus noir et de plus positif, tout ce qu'il y a de plus malheureux et de d'heureux, surtout dans un hôpital qui est un peu le lieu où personne ne veut aller parce que c'est un peu le lieu où on associe maladie, douleur et deuil, parce que c'est le lieu où beaucoup de gens meurent en général. Et je trouve que justement, elle a mis beaucoup de vie dans un hôpital et c'est... Comparer deux séries complètement différentes n'est pas comparable, je trouve que c'est ce qui permet de la distinguer par rapport à d'autres séries médicales, c'est que c'est une série médicale qui célèbre la vie malgré les gros accidents, malgré le chaos, malgré la douleur, elle célèbre vraiment la vie et la résilience en fait des personnages à survivre en fait tout simplement, qu'ils soient patients ou qu'ils soient médecins.
Marianne ?
Il y avait aussi dans Urgence... quelque chose de l'ordre de sociétal, d'une auscultation de la société américaine, de ses failles, de ce qui n'est pas du tout le cas.
Même si elle l'a fait après.
Elle le fait de plus en plus, c'est vrai. Elle s'inscrit un peu plus dans
le réalisme. Au début, c'était pas ça.
Mais on n'est pas du tout dans le réalisme.
Non.
Alors que dans Urgence était très ancrée dans la réalité de ces années.
Et de Chicago, notamment, voilà. Qui n'est pas une ville qui avait été choisie au hasard.
Alors, ce qui est en revanche de très réaliste, c'est les relations humaines. Qui, elles, sont brutes et sont sans... Elles n'enjolivent rien, en fait.
Donc, on a parlé de une des clés de la longévité de la série, c'est qu'elle a su garder un noyau dur de personnages qui sont là depuis le début. Tu l'as dit, Asma, certains qu'on n'aimait pas au début, qu'on aime aujourd'hui. Je pense à Alex, qui était un personnage, personnellement, que je détestais au début et que j'ai appris à un peu aimer. C'est-à-dire qu'il est supportable.
C'est marrant, parce qu'on est total à l'opposé. Moi, ah oui, Alex, j'ai aimé dès le début, et Meredith, je l'aime toujours pas. Hein. Ça fait 15 saisons que je l'aime pas, j'y arrive pas.
Mais justement,
moi,
demandé...
ça va, je trouve, Meredith. Je trouve qu'elle a changé.
J'allais justement dire, et Shonda Rhimes le dit, elle arrêterait la série le jour où Ellen Pompeo voudra arrêter, puisqu'elle estime que la série ne peut pas exister sans elle. Donc, la question, c'est, tant que Meredith est là, est-ce que tout va dans Grey's Anatomy?
Moi, je regarderais Grey's Anatomy sans
Meredith. En fait,
Meredith,
c'est plus la personne la plus importante. Elle l'a été au tout début à travers sa dépression, à travers ses états émotionnels et son évolution. Elle ne l'a plus été à partir d'un certain moment. C'est Christina qui prenait beaucoup de place, je trouve. Ensuite, on a intégré des nouveaux personnages, etc., qui ont pris plus ou moins de la place vis-à-vis d'elle. Et là, je trouve que depuis quelques saisons, c'est un peu devenu la matriarche. Surtout depuis qu'elle a eu des enfants, depuis qu'elle a vécu son deuil par rapport à Shepherd, etc. Elle a ce côté un peu maman, bienveillante, qui essaie de transmettre son métier tout en étant très dure et en faisant son travail correctement et en repoussant les frontières de ce qui se fait dans sa profession. Et je trouve que c'est pas la personne la plus intéressante. Elle a un peu ce côté comme... comment il s'appelle, le chef des internes? Je bug ce soir, c'est dingue.
Ah, il y en a eu plusieurs alors.
Non, celui qui est le père de sa sœur.
Le père
Richard Weber.
Weber. Elle a un peu le rôle de Weber au tout début, c'est en vrai. Fait, maintenant. Et je trouve que c'est pas Weber n'était pas le plus intéressant au début. Et il l'est devenu après. Et justement, je trouve que Meredith, maintenant, c'est un peu la matriarche. Et c'est plutôt Avery ou sa sœur. Mmh. Ou c'est un peu tous les autres qui prennent de la place et qui donnent de la substance et du corps, en fait, à l'essence de Grey's Anatomy, en fait, qui est de ce que je disais tout à l'heure, de célébrer la vie et de parler d'amour, de haine, de mes aventures, de romance dans ce lieu particulier que nous connaissons tous.
Et là où, par rapport à Urgence, elle a mieux réussi son évolution et le fait que ses personnages partent petit à petit, c'est qu'elle a toujours traité ça sur la longueur. Quand Christina s'en va, on en parle encore 3 ans après. Ça a laissé des traces. Les personnages ne disparaissent pas de la série totalement, jamais. Et ce qui est fort aussi, c'est que nous, on s'est dit plein de fois, je pense on s'est tous fait cette réflexion, j'arrête la série si machin s'en va. C'est toujours une réaction un peu facile. Beaucoup de gens l'ont dit pour April, par exemple, récemment, qui est parti la saison précédente. Bon, personne n'a arrêté au final. Christina, à un moment donné, on s'imaginait pas poursuivre la série sans elle. Et finalement, à part Meredith, je pense que n'importe qui peut partir tant que le ton, tant que l'efficacité de la série est là, on sera là aussi. Marianne, tu voulais dire quelque chose qui a peut-être pas de rapport avec ce que je viens de dire, mais...
Si, en fait, je voulais parler de l'efficacité de la série au-delà de ses personnages. Bon, il y a eu les 8 années Obama.
Ouais.
Aujourd'hui, l'Amérique a changé et le visage que présente de l'Amérique Grey's Anatomy est devenu politique. ce qu'on peut voir chaque semaine en prime time, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avancées sociétales qui sont remises en cause par la branche ultra-droitière des Républicains, et me paraît très intéressante. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle prend peut-être une dimension qu'elle n'avait pas sous Obama, puisque c'était un non-sujet. Et même dans les storylines, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont tirées, qui sont comme des réponses à ces attaques, en fait, aux droits des minorités, au genre, aux sexualités diverses. J'ai l'impression qu'on pousse un peu le curseur, alors qu'elle s'est toujours gardée de ça. Elle a toujours dit que pour elle, par exemple, la diversité est un non-sujet. Simplement, ces personnages venaient de tout. Mais là, j'ai l'impression que même dans ces storylines, je sens une espèce de frémissement, enfin, même si on sait qu'elle est partie signer chez Netflix, mais qui tire la série, enfin, qui rappelle des choses qui sont aujourd'hui fondamentales dans l'Amérique de Trump.
Pour rebondir justement sur ce que tu dis, moi, il y a quelque chose que j'avais vraiment remarqué, c'est qu'elle peut le faire aussi avec subtilité dans les personnages qu'on voit en fait derrière les personnages principaux. Par exemple, Hélène Pompeo, quand il y a eu le Muslim ban de Trump il y a 2 ans, elle a décidé en fait de voiler des infirmières. On a mis beaucoup plus de diversité en arrière, essayer de mettre les infirmiers, etc., en avant. On a parlé aussi d'immigration, on a parlé du mouvement MeToo, on a parlé de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avant, c'était plutôt, comme tu disais, on normalisait la bisexualité, l'homosexualité, la diversité. Et là, en fait, on veut le défendre depuis 3-4 ans, justement, parce que c'est en danger, en fait. Donc là, il y a un petit côté engagé dans Grey's Anatomy qui ressemble un peu à ce qu'on faisait un petit peu dans Urgence, qui est de plus en plus par rapport au sida, par rapport à l'homophobie, etc., dans Urgence dans les années 90. Elle commence à faire ça et c'est, je pense que c'est ce qui est en train de la sauver, alors que pendant presque 3-4 ans, c'était plus ou moins les mêmes mécaniques, la même chose dans l'hôpital, et on avait l'impression de s'ennuyer en fait en regardant plus ou moins toujours les mêmes histoires, les mêmes personnages qui s'entremêlent, enfin c'était un peu, comment dire, fatigant dans le sens où il n'y avait aucune nouveauté. Alors que là, justement, avec cette dimension sociétale, on retrouve quelque chose que Grey's Anatomy n'a pas proposé depuis très longtemps.
Mais c'est ce qui permet aussi de dépasser les personnages. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être forcément attaché à un personnage en particulier pour avoir envie de regarder la série. Mais c'est pour tout ce qu'elle défend au-delà des personnages. Moi, c'est marrant, je vais encore citer Urgence, mais Urgence, il y a plein de gens qui étaient dingues de George Clooney et dès qu'il est parti, ils sont partis. Dingues de Noah Wyle et quand il est parti, ils sont partis, etc. Moi, il n'y a jamais aucun personnage dans Grey's Anatomy que j'ai pu aimer autant que ceux d'Urgence. Honnêtement, j'ai du mal à avoir un personnage préféré. Donc voilà. Mais le message et toutes les dynamiques entre les différents personnages dépassent en fait tout ça et c'est ça aussi qui fait qu'elle dure et que ça continue de marcher.
Et oui, il y avait un générique dans Grey's Anatomy au tout début, on l'avait oublié, ils ne l'ont pas utilisé très longtemps, mais c'était ce générique qui n'était pas très joli d'ailleurs, qu'on est bien content qu'il s'en soit débarrassé. Alors, on a avancé beaucoup dans le conducteur prévu, je ne vous cache pas, donc on a évoqué déjà plein de sujets que je voulais évoquer plus tard quand même. Je voudrais revenir un petit peu sur le féminisme. Shonda Rhimes est une féministe convaincue, bien sûr, mais ses personnages ne le sont pas forcément ouvertement, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire passer des messages, je pense à l'égalité salariale, par exemple, avec Meredith, il n'y a pas si longtemps que ça, à travers ces personnages qui, eux, ne sont pas revendicateurs. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une belle manière de faire, de faire passer des messages, mais sans le dire aussi clairement?
Ce que je trouve intéressant, en fait, mais bon, après, c'est une question de vision du monde. La diversité, pour moi, ne peut pas être un étendard. Enfin, chaque être humain est égal à l'autre, et c'est juste ce qu'elle dit, sans en faire. Enfin, elle n'en a jamais fait des caisses. Elle a juste fait qu'une asiatique juive se marie avec un médecin noir et que sa meilleure copine soit blanche aux yeux bleus, comme un non-sujet. Enfin,
on s'en fichait, en fait.
C'est-à-dire que, moi, après, il y a des gens qui ne s'en fichent pas. Mais en tout cas, moi, dans mon système de valeurs, ça me paraît être un non-sujet. Et je trouve ça assez fort dans une société qui est assez construite sur les communautarismes. Ça serait peut-être différent en France, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est extrêmement fort comme affirmation d'en faire un non-sujet.
Tout à fait. Il y a un sujet qui me vient, c'est l'avortement que subit Christina. Enfin, c'est un choix, évidemment. Mais c'est un sujet tabou qui est toujours difficile à évoquer aux États-Unis en prime time, d'autant plus sur une grande chaîne comme ABC qui appartient à Disney. Et ça, il n'y a que Shonda Rhimes, à l'époque, en tout cas, qui a réussi à le faire sans que ça crée la moindre polémique. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est parce que personne n'a vu. La série est très regardée. Et donc, il y a une force chez Shonda Rhimes de traiter des sujets comme ça, qui passent presque sous le tapis, qui sont vraiment traités, mais sans créer de problème.
Parce qu'elle le fait avec justesse. Elle le fait avec beaucoup de réalisme, d'humanité et de justesse. Et ce n'est pas donné à tout le monde de savoir écrire, en fait, ce type d'événements de la vie qui sont hyper compliqués à gérer. Des choix qui ne sont pas nécessairement faciles à faire, notamment dans l'Amérique, qui est quand même très puritaine, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. L'avortement n'est pas quelque chose qu'on l'on défend partout, dans tous les États-Unis. Et je trouve que, justement, elle a amené ça de manière à ce que, comme on connaît le personnage, qu'on sait comment elle fonctionne, qu'on connaît ses aspirations et qu'on sait où elle veut aller, l'avortement était presque une nécessité, c'était normal. Et en normalisant l'avortement, elle a permis justement de se positionner sur ce sujet en expliquant que pour les femmes, c'est parfois pas un choix en fait. C'est normal, ça fait partie en fait, c'est une décision qui est presque facile, que d'autres ne peuvent pas comprendre, mais que quand on connaît la personne et quand on connaît la femme qui fait ce choix-là, de consort ou non avec la personne avec qui elle partage sa vie, on peut accepter l'avortement, même si on ne l'accepterait pas pour nous. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment beau et fort avec cet épisode, c'est que bah, on parle juste d'êtres humains, en fait, qui font des choix de vie par rapport à, que ce soit l'avortement ou par rapport à leur choix professionnel ou leur relation amoureuse. Dans Grey's Anatomy, c'est toujours des gens qui nous ressemblent, qui ont leurs petits problèmes, qui ont leurs histoires d'amour un peu, parfois un peu pourries, un peu nazes, leurs coups de crush, et en même temps qui vivent des choses qui, parfois, à certains moments, peuvent être très grosses, très dures, et qui ont un réseau de soutien derrière pour les aider à traverser ces épreuves-là.
Comme autre exemple récent, on a le personnage transgenre qui a été introduit la saison dernière. Et on nous dit à un moment donné, au détour d'un dialogue, qu'il est transgenre, mais ça n'est jamais un vrai sujet. Le personnage, bon, il est assez peu présent, mais il a d'autres choses à défendre. Il est là comme tous les autres médecins, comme tous les autres internes. Cali et Arizona, évidemment, c'est un couple qui a été un couple phare, peut-être le premier couple lesbien qui a eu comme ça une résonance aussi énorme dans le monde. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce couple-là, par les téléspectateurs français, pour parler un peu de la France, a été très bien accepté, très aimé, etc. Mais que malgré tout, on n'a toujours pas de personnages comme ça, ou très peu, avec un peu avec 10%, dans nos séries françaises.
On a très peu de personnages de manière générale. On est très dans des stéréotypes, de toute manière.
Tous les sujets qu'on évoque, ils ne sont jamais évoqués dans les séries françaises. C'est quand même dingue. Et on parle de l'influence des séries américaines, mais malheureusement, elle ne va pas jusque-là, visiblement.
Parce que c'est un peu compliqué quand c'est l'histoire de quelqu'un, d'un meurtre, dans une ville de province, de parler, qui se répète dans plusieurs villes, de parler de plein de choses, quoi, de diversité, de politique, d'avortement, droit de la femme.
Et pourtant, on a essayé de copier Grey's Anatomy plusieurs fois.
Notamment une fois, qui était assez phénoménale, l'hôpital.
Ouais, l'hôpital, voilà, c'est ça, mon Dieu.
On a eu le cocon sur France 2 qui était à peu près aussi nul. Ouais. Je t'ai coupé tout à l'heure, Stéphanie,
je voulais juste revenir sur l'épisode de l'avortement, parce qu'il y a eu aussi celui d'Olivia Pope dans Scandale, qui est beaucoup moins bien passé, en fait, que celui de Christina dans Grey's Anatomy.
Parce qu'elle est noire, peut-être, et que ça rajoute un tabou sur un tabou.
Je pense que c'est plutôt le milieu politique et la backstory qu'il y avait, en fait, avec le personnage. Moi, je pense que
ça a été moins bien amené. C'est pas du tout la même écriture, mine de rien.
Ouais, globalement, Scandal est quand même une moins bonne série que Grey's Anatomy, on peut le dire.
C'est vrai.
Alors justement, on parle de Shonda Rhimes. Elle l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle ne voyait pas la série continuer sans Hélène Pompeo. Mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur, l'avenir de la série? Est-ce que vous avez envie qu'elle dure encore 3, 4, 5 saisons? Ou est-ce que vous vous dites que là, quand même, on a atteint un niveau et c'est déjà pas mal? Je rappelle que Hélène Pompeo est signée pour une saison 16, même si elle n'est pas encore officiellement commandée, il y en aura une. Mais au-delà, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous, est-ce que vous avez envie que ça continue au-delà ?
À partir du moment où elle prend le rythme du monde, ce qu'elle semble faire depuis 2-3 ans, et avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, ça me semble assez intéressant en fait.
Moi, je me rends compte que elle continue de me faire pleurer, Grey's Anatomy. Au bout de 15 saisons, un épisode récent là, sur l'opération de la mère de Jackson, ouais. Je me suis retrouvée en larmes au milieu de l'épisode. Moi, tant qu'elle continue à me faire pleurer, allons-y.
Je vais concorder, hein. Tant qu'il y a de l'émotion et de l'intérêt en fait, dans les histoires, je pense que Grey's Anatomy peut continuer. Tant qu'elle ne tombe pas dans les écueils de la facilité et des mécaniques qu'elle faisait très souvent, c'est-à-dire qu'en saison 7, 8, 9, c'était toujours essayer de créer un événement de plus en plus chaotique, de plus en plus un accident très fort, histoire de choquer tout le monde et de créer des émules. Surtout, en plus, c'était le début du web, que ça en parle partout sur les réseaux et machin. Je trouve que là, elle a retrouvé cette justesse qui lui permet justement d'être d'avoir un œil sur l'Amérique. Et en même temps, de continuer à raconter ces histoires de soap, qui sont toujours aussi distrayantes et sympathiques. Qu'elle ait une pompée au reste ou pas, moi, je pense que la série peut fonctionner quand même, parce qu'on est très attaché à Avery, on est très attaché à Weber, on est très attaché à Bailey.
Et la voix, que va devenir la voix si Meredith s'en va, quand même?
Elle a déjà
été peut y avoir un lien, elle a été remplacée par d'autres. Moi, je pense que c'est une série, tant qu'elle a des choses à dire, que ce soit sur l'Amérique, que sur ses personnages, elle peut continuer. Par contre, si c'est pour refaire ce qui a déjà été fait plusieurs années auparavant, là, à ce moment-là, il faudrait que ça s'arrête. J'ai eu peur, moi, en saison 11-12, que ça reparte justement sur ce qu'on avait déjà vu. J'ai eu peur quand Shepherd est parti, je me suis dit, Meredith va retomber dans la dépression. Mmh. Et au final, non. On a eu deux épisodes où justement on a un peu survolé tout ça, et c'était pas plus mal, pour revenir dans ce que la série faisait de mieux. Et tant qu'elle sait faire ça, tant qu'elle sait se rattraper, je pense qu'elle peut continuer encore. Après, de là à aller jusqu'à 20 saisons, je pense que toute série doit avoir une fin à un moment ou à un autre, qu'elle soit prédite ou pas, qu'elle soit réfléchie ou pas. Je pense que tant que la showrunner sait où elle va et sait quoi écrire, je pense qu'elle peut continuer.
Et d'ailleurs, c'est une nouvelle showrunner qui s'occupe de la série depuis la saison dernière. C'est plus seulement Shonda Rhimes, elle est toujours présente bien sûr, mais elle est moins là au jour le jour. Et ça a peut-être donné aussi du sang neuf. Ouais. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui a été choisi évidemment par Shonda Rhimes. On va parler des spin-offs quand même, rapidement. Il y en a eu deux spin-offs de Grey's Anatomy. Il y en a un qui est en cours, qui s'appelle Station 19. Et puis, il y a eu Pride Practice pendant 7 ans, je crois. Est-ce que vous avez aimé ces spin-offs ? Enfin, on va commencer par Pride Practice d'abord, rapidement. Est-ce que vous les avez aimés, sachant que Pride Practice, quand même, en France, ça a été un peu compliqué. Elle a été diffusée sur France 2 n'importe comment. Donc, voilà. Est-ce que vous avez pu la voir déjà ?
Oui, moi j'ai vu tout Private Practice, j'ai vu tout Station 19 aussi. Private Practice, moi j'aimais beaucoup, parce que c'était différent de Grey's Anatomy, on n'est pas dans un hôpital, on est dans un cabinet privé, et du coup, les dynamiques... Et oui, il y a une lumière qu'on ne verra jamais dans Grey's Anatomy, la Californie, c'était réussi. C'était Station différent. 19, pour moi, c'est une espèce de pâle copie qui ressemble à rien... qui essaye de reprendre les dynamiques de Grey's Anatomy avec les petits nouveaux qui arrivent et qu'il faut qu'on les forme et blablabla. Voilà, moi, aucun intérêt, alors que Pride Practice, pour moi, c'était réussi. D'ailleurs, ça a duré 7 saisons quand même.
Une dernière saison qui n'était pas terrible,
mais
enfin...
Voilà, mais ouais. Pour que ça dure 7 saisons, Station 19, je lui donne pas cette longévité, on verra bien. Oui. Hein. Mais puis le personnage d'Addison qui était assez génial. Franchement, Kate Walsh, elle a un charisme de dingue et...
Qu'on veut revoir.
10 fois plus que Meredith
Grey. Et qu'elle n'a pas d'Umbrella Academy, malheureusement.
toi, Marianne ?
Alors, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Pride Factor, c'était vraiment une super série. On était vraiment sur l'intime. Alors, l'intime des grandes personnes.
C'est ça, c'était plus adulte que Grey's Anatomy. Ouais. Grey's Anatomy est plus adulte aujourd'hui qu'elle ne l'était, mais oui.
Mais alors, du coup, elle était très désinhibante et elle était en même temps très rassurante parce qu'on était beaucoup moins dans la fantaisie. En tout cas les scénaristes travaillaient le réel de l'enjeu intime, quoi. Et ça, je trouvais qu'elle apportait des choses intéressantes, et puis toujours la diversité comme une affirmation, comme une évidence. Station 19 me rappelle plus Off the Map. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc qui a une espèce d'ovni comme
qui
ça.
N'était pas un spin-off de Grey's Anatomy, mais qui aurait pu presque.
Voilà, qui était, qui voilà, qui est exactement une espèce de pâle
copie dans les îles.
Voilà,
ouais. Dans la jungle.
Qui d'ailleurs a été annulée très très rapidement.
Oui, oui, oui. Elle a pas vraiment eu le temps de faire ses preuves, mais voilà, parce que. Bon, quand même, moi j'aime beaucoup Private Practice, mais elle n'a pas été bonne tout de suite. Il y a quand même une première saison assez étrange, les premiers épisodes qui étaient introduits dans Grey's Anatomy, qui faisaient beaucoup penser à Ally McBeal, justement. On sentait qu'il voulait faire d'Addison une nouvelle Ally McBeal, avec, on s'en rappelle peut-être pas, mais des gens, qui, enfin un ascenseur qui parlait, quand même.
C'est
ça a duré deux épisodes.
C'est vrai.
Et ensuite, ils ont recalibré la chose et c'est devenu une bonne série en saison 3 à 4. Il y a eu l'intrigue du viol de Charlotte aussi, qui était quand même assez incroyable. Même Grey's Anatomy, je pense, n'est pas allé aussi loin
aussi,
avec une intrigue.
Le bébé de la sœur de Shepard, qui était un moment très compliqué aussi pour ce personnage à gérer, qui était très fort et bien écrit. Enfin, moi, je sais que j'ai pleuré sur cet épisode, alors que je suis pas maman, j'ai jamais été enceinte. Et elle a réussi à amener beaucoup d'empathie avec les saisons qu'on n'avait pas au tout début, parce qu'elle se chercher en fait la série.
Et d'excellents acteurs aussi.
Oui, une immense actrice de Broadway, Rha McDonald, qui est vraiment une des plus grandes comédiennes aujourd'hui encore au théâtre, qui a fait la Juilliard School et qui est vraiment formidable. Et d'ailleurs, qu'on retrouve dans ma série Chouchou qui revient le 14 mars, The Good Fight.
Et oui, effectivement. Bon, faudra qu'on fasse tout un podcast sur The Good Fight. On lance l'idée. Je note en tout cas que vous n'êtes pas très fan de Station 19.
Bah, c'est un peu Chicago Fire, mais du pauvre, je dirais, en fait, Station 19. Ça se cherche, c'est pas exactement ce que la série ne sait pas ce qu'elle est.
Et elle profite assez peu des crossovers, en fait.
Ouais.
À chaque fois qu'il y en a un, c'est vraiment pour des éléments très secondaires.
Quand ils font des crossovers, les pompiers sont un peu des personnages tertiaires. C'est des personnages qui passent.
C'est une opération marketing, plus
et voilà,
chose,
voilà, hein. C'est de la com en fait. C'est pas, y a pas d'intérêt à ce qui passe. Ils viennent, ils déposent les patients et puis allez, salut, au revoir, on va faire autre chose.
Alors
on repart dans notre
Chicago,
série.
Alors que dans Chicago, les crossovers sont bien plus réussis que ça.
Effectivement, puis il y a 911, c'est pas une série de Shonda Rhimes bien sûr, mais qui est arrivée à peu près en même moment et qui, sur le même thème des pompiers, tout ça, des urgences, est quand même assez exceptionnel, spectaculaire, là où Station 19 a quand même des cas. Médicaux, entre guillemets, vraiment pas terrible, avec des effets spéciaux pas top. C'est un peu ridicule aussi de ce point de vue-là. C'est plus intime, mais c'est un peu ridicule. Ma dernière question va concerner Shonda Rhimes. Ses prochaines nouvelles séries seront pour Netflix, puisqu'elle a signé avec eux l'année dernière un contrat énorme. On n'a pas encore vu ce que ça allait donner. Il y a quelques projets qui sont en développement. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez d'elle sur Netflix? Est-ce que vous voulez qu'elle nous refasse un Grey's Anatomy dans un autre univers, je sais pas, ou quelque chose de complètement différent?
Moi, tant qu'elle arrive à raconter des histoires de soap, tout en étant réaliste et normative, ça me pose aucun problème. J'ai juste besoin qu'elle propose des choses intéressantes, comme How to Get Away with Murder, par exemple. Où... Moi, je suis pas trop scandale. Je trouve que la politique, elle est un peu mal amenée dans cette série, donc j'ai jamais vraiment adhéré à scandale. Tant qu'elle arrive à proposer des choses bien écrites. Et je pense qu'elle sait encore faire ça et qu'elle a des concepts qui peuvent être très intéressants. Je regarderai ce qu'elle ferait et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va proposer à Netflix. Maintenant, il faut voir sous quel format, quelles histoires elle va traiter. Parce que si c'est pour faire une redite de ce qu'elle a fait déjà dans toutes les séries qu'elle a écrites, je sais pas. Après, moi, je pense que c'est une créatrice et qu'elle a toujours des bonnes idées et qu'elle a toujours des choses à dire, en fait, encore.
Et mine de rien, ça fait longtemps qu'elle n'a pas créé une série. Elle en a produit plein, mais
pas
créé beaucoup.
C'est
donc, on attend un peu au tournant.
Moi, je ne sais pas quoi attendre de Shonda Rhimes parce que je ne sais pas de quoi elle est capable aujourd'hui.
Sa dernière création, c'est Scandal, hein, qui n'était pas sa meilleure série.
Ben, non, c'est ça. Et tous les autres trucs de Shonda Land où il y a... Certes, elle n'était que productrice, mais Station 19, parce que pour le coup, c'est pas elle, au final. Force the People, qui était juste une catastrophe.
Ne dis pas été, elle existe toujours. Elle va revenir
bientôt.
Voilà,
tu vois, ouais, j'ai lâché au bout de deux épisodes. Tout ça, c'est du gloobie-boulga, on essaye de refaire un peu tout le temps pareil.
Je pense qu'elle
est
partie dans les méandres de la prod, en fait. Elle est partie dans « je veux être une productrice, je veux développer Shonda Land, je veux développer mon label ». Et là, le fait qu'elle revienne à la création, peut-être qu'elle va renouer avec ses premiers amours et écrire des choses, peut-être qui, justement, repousseront les frontières de ce qu'on n'a plus vu depuis longtemps ou pas vu.
C'est la fin de cet épisode 89 d'un épisode et j'arrête, à qui l'on souhaite la même longévité que Grey's Anatomy, mais on vous cache pas que ça va quand même pas être facile. Merci à Asma El Mardi de Brenda Met. Merci à Marianne Béard de l'Humanité et à Stéphanie Guérin du Parisien. Merci aussi à Solène qui était à la technique. La semaine prochaine, ce sera le grand retour de la Battle des séries 4e édition. On reparlera notamment séries médicales avec un Dr. House versus Good Doctor, deux séries du même créateur. D'ici là, likez nos pages et nos profils Facebook et Twitter. Prêchez la bonne parole autour de vous. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one.
Whoa, wait.
What?
That's the last one.